Bonjour et bienvenue à Voilier sur les ondes. Moi, c'est Alexis Roy-Touchette. Aujourd'hui, on jase régate avec Yvan Simard, président du CRIC, le championnat régional de yachting de Québec. Yvan, merci d'avoir accepté l'invitation.
Mais ça me fait plaisir. Bonjour Alexis.
Question de vous situer dans l'univers de la régate ou de la voile un peu au Québec. C'est quoi le CRIC?
Le CRIC, c'est ça veut dire Championnat régional de yachting de Québec. Alors, c'est un regroupement. Quand on parle de région, là, c'est que nous couvrons géographiquement là, de Neuville, et quand je dis Neuville, c'est la marina de Neuville, là, on parle des marinas hautes, et le terrain de jeu s'en va jusque dans le coin de l'île Madame, là, un petit peu à l'est de Berthier-sur-Mer. Et le championnat régional est supporté par 6 marinas hautes, et tout le monde qui fait de la régate à Québec est toujours bienvenu de se joindre à nous. Il y a diverses classes dépendant des niveaux de compétition qui sont recherchés. Et vous allez avoir tous les renseignements sur notre site internet cryq.org. Mais le CRIC, finalement, c'est ça. C'est une organisation bénévole, un organisme à but non lucratif. On n'a personne de payé chez nous, sauf les officiels de course qui sont rémunérés à chaque intervention. Et on organise des régates annuelles, estivales bien sûr. Et voilà, nous en tenons 13 plus ou moins une par année quand les années ne sont pas sous la contrainte de la santé publique.
Évidemment. Bon, ça me donne une bonne idée, ça. Il existe des régates où tous les bateaux qui sont présents vont être identiques. Donc là, dans ce cas-là, le premier arrivé gagne. Il existe d'autres régates où les bateaux sont différents, mais c'est encore le premier arrivé qui gagne. Donc là, on se retrouve avec des gros investissements, par exemple, pour avoir le meilleur bateau pour gagner. Finalement, on a des régates comme vous les pratiquez. Quel type de bateau ça prend pour participer à une régate comme celle du CRIC?
Ça prend n'importe quel voilier, qu'il soit monocoque, dériveur, intégral, lesté, multicoque. Alors, tous ces voiliers-là sont classés selon leurs caractéristiques propres. Évidemment, là, on n'est pas dans la première chose que tu disais, là, tous des voiliers identiques, le premier sur l'eau va gagner, la course One Design. C'est tous les bateaux qui vont répondre à des critères de classe que tous s'engagent à avoir respectés. Alors, les embarcations étant les mêmes, il n'y a pas de compensation requise pour niveler les vitesses différentes inhérentes à chaque bateau. Ce que nous autres, on a, comme c'est monsieur, madame, tout le monde, régatier de performance ou régatier amateur, remarque, on est tous des amateurs, mais il y en a qui sont moins amateurs que d'autres.
Alors, il y en a qui en font depuis plus longtemps, qui sont plus sérieux dans leur démarche.
Oui, absolument, qui s'investissent plus, qui vont aussi aller sur d'autres circuits, parce qu'il y en a d'autres. Alors, à ce moment-là, on va utiliser des règles de handicap, c'est ce que nous faisons. Alors, le handicap, il y a plusieurs règles qui s'appliquent, mais je pense que tu voulais y revenir plus tard là, pour préciser le point. Mais c'est de cette façon-là qu'on va niveler les capacités des bateaux pour idéalement arriver à des niveaux de compensation qui font que, après un calcul relatif au temps de chaque participant, on va changer le temps réel. Alors, le premier qui arrive sur l'eau n'est pas nécessairement celui qui va gagner la course. Alors, ça va être compensé par les capacités du bateau. Et on va appliquer des handicaps différents qui ont été calculés d'une façon scientifique à chaque bateau pour avoir un résultat final.
OK. Ben oui, allons-y. Donc, dans le handicap, qui est la manière qui nous permet d'essayer de comparer le mieux possible là, des bateaux qui peuvent être assez différents, là, vu que, comme vous le mentionnez, pas mal tous les bateaux sont bienvenus. Donc, si je comprends bien, la majorité du temps, on va enlever du temps à votre temps final. Donc, si vous avez fait la course en 1h06, on pourrait dire, votre bateau est très rapide, on enlève très peu de temps, on enlève 3 minutes. Ou votre bateau est un bateau lent, donc pour compenser, on va vous enlever 15 minutes. Est-ce que ça résume?
C'est exactement ça. Absolument.
OK, excellent. Et ça, dans le fond, c'est basé sur des données auxquelles vous avez accès pour dire, bon, vous avez un CNC 30 tel modèle, vous devriez avoir un handicap X.
Tout à fait. Ça s'appelle l'handicap de base. L'handicap de base, là, il est basé sur le bateau tel qu'il a été livré par la compagnie à l'origine, avec un jeu de voile déterminé, une hélice pliante, Il va avoir des caractéristiques d'utilisation de Spinnaker ou pas. Ensuite, le skipper va avoir un formulaire à remplir pour préciser les caractéristiques propres à son bateau. Alors, s'il n'y en a pas une hélice pliante, elle ne sera pas prise en compte, c'est-à-dire que son handicap va monter, parce que cet appendice dans les œuvres vives va ralentir le bateau. Alors, son handicap va monter, mais toujours dans le respect des chartes qui sont associées à cet élément-là. Alors, je reprends ton exemple du CNC 30 de telle année, un Mark II, avec, bon, alors, on vient de préciser notre bateau, son handicap est à 180, mais il n'y a pas d'hélice pliante, alors il peut monter à 195, par exemple. Et peut-être que ses voiles ne respectent pas la garde-robe d'origine. Son genou le plus grand, c'est peut-être un 120% au lieu d'un 155. Ça va également lui donner. Écoute, dans le milieu, là, il y a du monde qui va appeler ça des pins. Okay? Tu as plus de pins. Et ça, ce sont des secondes au mille. Alors, le handicap, c'est ça. Ça t'enlève des secondes au
OK.
mille.
Donc, c'est principalement en fonction de la distance. Donc, parce qu'évidemment, plus une course est longue, plus le fait d'être rapide ou lent va créer des grosses différences en termes de temps finaux. Donc, le handicap va être appliqué en fonction du nombre de milles ou est-ce qu'il y a une variable qui est appliquée en fonction du temps que peut durer la course également?
Ah, c'est une excellente question parce que les deux existent et c'est un choix de compilation que le comité organisateur va faire. Ça s'appelle temps sur temps ou temps sur distance. Nous utilisons le temps sur distance. Alors, c'est en milles nautiques du parcours. Plus c'est long, plus tu vas multiplier le handicap au mille que ton bateau possède. Alors que temps sur temps, plus la course dure longtemps. Alors, c'est ça la nuance. Puis, ça dépend de ce qu'on fait. Et de toute façon, ultimement, ça devrait être à peu près pareil comme résultat. C'est juste qu'il y en a qui ont des caractéristiques, et à Québec, on a le vecteur courant qui est incontournable. Pour nous, avec les formules de compilation, le handicap PHRF qu'on utilise, qui veut dire Performance Handicap Racing Fleet, alors c'est une norme international. Et nous, on va chercher la base de données du SLVIRA. SLVIRA, c'est quoi? St. Lawrence Valley Yacht Racing Association en Ontario. Alors, on se sert de leur base de données, des handicaps déjà connus, de leur formulaire de correction et du logiciel pour compiler les résultats.
OK. Donc, eux, ils vont vous fournir une grosse base de données avec tous les, ou presque, on espère, les modèles de bateaux qui pourront venir courser avec vous. Donc là, vous pouvez piger dans cette base de données-là pour déterminer quel handicap sera associé à tel bateau. Puis en plus, si je comprends bien, là, juste pour résumer, ils ont des chartes qui vont permettre de dire, par exemple, cette personne-là a une surface de voile plus grande qui était prévue à la base pour ce bateau-là. Donc, on va venir apporter une correction à son handicap.
Alors, c'est à peu près ça, sauf que tu peux pas être plus grand que la base. La base est comme au maximum. Tu peux être plus petit. Donc, on va t'handicaper plus. Alors, si tu dis rien, on ne te connaît pas, là. Tu es arrivé pour une fois et 5 minutes avant le départ, tu t'inscris sur les ondes radio. On n'a pas le temps de faire nos recherches. On va t'attribuer un handicap, le handicap de base que nous trouvons dans SLVIRA et tu peux pas être plus rapide que ça. C'est à ton détriment, là. Tu aurais pu avoir un handicap qui t'avantage, mais si on n'a pas le temps, le handicap de base, c'est le bateau le plus performant possible que la compagnie pouvait livrer.
Oui. Donc, plus grand ton handicap, moins on va t'enlever de temps au final, donc plus tu es pénalisé.
Puis si ton handicap est grand, plus on va te donner du temps.
OK. Donc, plus ton handicap est grand, plus tu es avantagé par la
Oui,
correction.
la correction va être à ton avantage.
OK. Excellent. Ça se démêle tranquillement dans ma tête. Vous parlez d'une correction là, qui serait spécifique à des lieux où il y a beaucoup de courant, et c'est le cas, on le sait, là, dans la région de Québec où les courants de marée peuvent atteindre plusieurs nœuds. Fait que là, ça, si je comprends bien, ça peut faire en sorte qu'un bateau qui est vraiment rapide va arriver, par exemple, va avoir un courant qui pourrait être différent d'un bateau qui est plus lent, finalement. Est-ce que vous corrigez, finalement, pour le courant présent sur l'eau pendant une régate?
On va le corriger toujours en essayant d'avoir le résultat le plus précis possible, mais il faut comprendre que ça restera toujours un compromis. On contrôle pas le temps de passage des bateaux ni la force du courant. Alors, on fait une espèce de moyenne. Si les gens sont intéressés là, sur le site web du CREEC, la formule de calcul est là, c'est pas un secret, avec toutes les variables prises en compte. Et on va prendre le temps du bateau le plus rapide par rapport à ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas de courant théoriquement. Alors là, on va voir qu'est-ce que le courant a influé sur son résultat et on va appliquer cette correction-là à tous les bateaux. Et c'est sûr que ce n'est pas parfait, mais si on ne faisait pas ça, ça nous prendrait des balises sur chaque bateau pour changer, pour appliquer un correcteur courant sur tous les bateaux. Et on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas l'équipement et les connaissances requises pour le faire.
Oui, certainement, ça deviendrait compliqué. Une question que je me pose, c'est, je m'achète une hélice pliante, parce que moi, je veux aller plus vite, je veux gagner la course, mais que finalement, dans un système de handicap, comme par exemple vous utilisez au CRIC, je vais me retrouver à me faire enlever moins de temps, donc à être pénalisé par le système de handicap plus parce que je me suis mis une hélice pliante. Pourquoi je me mettrais une hélice pliante?
Pour le plaisir d'arriver plus en avant de la flotte sur l'eau, le bateau est plus performant. Peut-être aussi que la correction de handicap qui va t'être donnée n'est pas encore assez haute pour compenser le gain que tu vas avoir donné à ton embarcation. Alors, tu as mis une hélice pliante, ça t'a rajouté 3-4 secondes au 1000. Et c'est ça qu'on t'enlève. Mais toi, finalement, là, à force d'ajustement et de fine-tuning, si on se passe le terme anglophone, tu vas chercher un 10 secondes au 1000 parce que c'est bien situé, puis tu as une hélice vraiment de bien calibrée, c'est très efficace. Tu viens de battre la machine. Alors, ça, c'est un gain. Par contre, si tu vas jouer sur les voiles et tu me dis, OK, mes voiles sont de la même superficie car c'est ce que nous calculons, alors ça ne changera absolument rien à ton handicap. Mais tu mets des voiles de régate en composite qui sont hyper efficaces, tu vas aller chercher un gain qui est non négligeable et ton handicap n'a jamais changé. Alors là, tu viens de monter.
OK. Donc, si on est vraiment motivé à gagner des régates, il faut s'attarder aux règles puis là, essayer de trouver les meilleures stratégies ou les meilleures améliorations qu'on peut faire à notre bateau là, en fonction de ça, finalement.
Tout à fait. Si le seul objectif, c'est de gagner, on applique les règles à notre avantage le mieux que nous pouvons. Les avocats connaissent bien ça.
Oui, c'est les mêmes règles pour tout le monde.
Voilà, absolument. Puis, il n'y a rien de caché, là.
Oui, exact. OK. Jusqu'à quel point est-ce qu'on considère l'équipement à bord? Donc, moi, je me disais, je m'installe un barbecue sur la plage arrière. Est-ce que c'est considéré dans le règlement, ça?
Bon, je nuance ma réponse. Chez nous, non. Si on va dans le système de handicap ORC, par exemple, ORC est plus précis, il pourrait traiter un bateau dans la catégorie course pure. Mais si un barbecue, il n'est plus course pure, il est rendu course croisière, alors là, ils vont mettre une petite correction différente. Comme ORC, ils vont changer le handicap annuellement parce que le bateau prend de l'âge puis ils considèrent qu'il est moins performant. PHRF ne fait pas ça. Alors, la réponse, c'est oui et non. Ça dépend quelle est notre référence. Oui.
Ça n'a pas de limite, finalement, là, la précision qu'on peut essayer d'atteindre, là, finalement, pour permettre à tout le monde d'être un peu plus égaux sur l'eau, mais ce sera jamais parfait, si je comprends bien.
Jamais parfait, puis nous, on a décidé d'avoir une approche simple et qui se comprend bien.
Il existe aussi d'autres types de courses où on ferait plutôt partir les plus lents en premier. Et là, le premier arrivé à la ligne d'arrivée serait donc le gagnant. Là, on peut appeler ces courses-là le course-poursuite ou moi, j'ai déjà entendu également le terme bermudienne. Ça fonctionne comment plus précisément ce type de course-là?
Mais on va partir sur un parcours qui est connu. Le parcours, il va nous donner la distance. Nous en faisons une par année. On finit notre saison avec une course semblable. Alors, on va avoir, d'ailleurs, elle ne compte pas dans le championnat parce que les règles sont changées par rapport à toutes celles qui sont compilées. C'est plus une espèce de happening pour le plaisir d'être sur l'eau et de clore ça avec la soirée de fermeture annuelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le parcours étant connu, sa longueur est prise en compte. On connaît le courant théorique de cette journée-là. Alors, nos responsables techniques vont calculer par rapport au handicap des bateaux le temps théorique que ça va te prendre pour faire le parcours. Alors, on met le temps égal pour tout le monde, mais considérant les handicaps qu'on applique avant la course et non pas après, certains bateaux devront partir avant, c'est-à-dire les plus lents partent les premiers, les plus rapides partent les derniers, pour que, et je répète que c'est théorique, quand si tout le monde va chercher le 100% des performances de son bateau, on se frappe tous sur la ligne d'arrivée. tout le monde arrive en même temps à la split seconde.
Parce que c'est ça l'objectif au final, autant de cette course-là qui est la course-poursuite que de l'autre course où le handicap est attribué à la fin. Finalement, l'objectif, c'est que c'est pas le bateau qui gagne la course, mais l'équipage, finalement.
Exactement.
Est-ce que vous voyez un avantage ou un désavantage à la course-poursuite? Y a-t-il des raisons pour lesquelles on la fait moins souvent ou plus souvent?
Il y a beaucoup plus de travail en amont. Alors, avant de partir la course, on calcule beaucoup. C'est du cas par cas. Et il faut aussi donner, je prends l'exemple, là, toi Alexis, tu viens de t'inscrire avec ton CNC30, là, et pour partir sur la course, parce qu'on doit aussi considérer que notre plage de départ est toujours influencée par les marées, là. Alors, on peut partir entre telle heure et telle heure, et là, ça va bien aller. Alors, toi, ton heure de départ va être 10h, 12 minutes, 16 secondes. Parce qu'on y va, ça y va à la seconde. Alors, pour le comité de course, c'est un travail de précision et d'observation qui est très exigeant. Alors, si on a une bonne régate à 30 bateaux, c'est 30 départs différents. Et il peut y avoir des rappels pour chaque bateau qui franchisse la ligne avant, ou un rappel général si on peut identifier qu'est-ce que c'était. Alors, la gestion de ces courses-là est beaucoup plus lourde.
Ouais, je peux imaginer. Malgré toutes les corrections dont on vient de parler, là, vous séparez quand même votre championnat en différentes classes. Pourquoi?
On les sépare en différentes classes pour susciter la compétition sur l'eau. On essaie de regrouper les bateaux qui sont les plus comparables pour ne pas avoir un bateau qui est arrivé 2 heures avant tous les autres et qui se met à pas gagner à cause des jeux de handicap, mais qui finalement sont moins stimulants qu'un regroupement qui est un peu plus serré et qui fait que les compétiteurs finalement compétitionnent à vue. Et c'est un peu plus concret là, comme appréciation des gains et des pertes.
Ouais. Ouais, c'est plus agréable quand on a des dépassements un peu pendant une course, là. Est-ce que une des raisons pour lesquelles je trouve que ça peut avoir de la valeur aussi de séparer en classe, donc que les bateaux soient plus proches, je ne sais pas si c'est réfléchi de cette manière-là, ce serait que, par exemple, si le vent change, ben là, les bateaux sont proches ensemble, tu sais, tandis que si un bateau est parti, il a fini 2 heures avant, il pourrait avoir eu finalement un vent complètement différent, un courant complètement différent.
Absolument. Ça fait partie des éléments qui justifient la classification des bateaux dans la flotte.
Est-ce que ça fonctionne, le système de handicap? Donc, si moi, je m'achète un petit bateau pas trop cher, j'ai-tu vraiment des chances de gagner contre un bateau de course?
Oui. Oui, ça fonctionne et oui, tu as des chances de gagner. Absolument.
Bon, ça donne le goût quand même de participer plus, surtout si on ne veut pas investir énormément pour commencer dans un bateau, là.
Oui, il n'y a rien comme voir quelqu'un qui en fait une avec les enfants pour dire hey, on n'a rien à faire aujourd'hui, puis ça se passe à notre marina. Est-ce qu'on participe pour voir ce que ça a l'air? Et qui font le podium à la fin de la journée. On les revoit, ces gens-là, parce qu'ils ont eu du plaisir, puis ils voient que c'est accessible. Et ça arrive à chaque saison, là.
Génial. Est-ce que vous pourriez nous décrire, pour quelqu'un qui en a jamais vraiment fait, là, le déroulement typique d'une journée de régate du Creek?
Ben, une journée de régate, écoute, ça va commencer dans ta marina avec ton équipage sur ton bateau. C'est clair que tu t'es préparé un petit peu avant. Les gens y ont pratiqué, ils ont se rejoint. Et tu sais, on a la marina haute. La marina haute, c'est-à-dire que le départ va être donné à cette marina-là ou tout près. Alors, c'est pas tout le monde qui a son bateau à cette marina-là, bien sûr. Alors, il faut que tu t'y rendes. Alors, il y en a qui vont le faire la veille, il y en a qui vont y aller le matin même. Alors, on peut croiser des compétiteurs sur le fleuve à 6 heures le matin et on s'en va au moteur parce qu'à 6 heures le matin, mais c'est bien rare qu'ils ventent et surtout pas toujours dans la bonne direction lorsqu'il y en a. Alors, on y va, on prend notre café, on se rend sur dans la zone de préparation et rendu là, ben on analyse. Mais ça, c'est la belle période pour parler de notre stratégie, de ce qu'on va faire et idéalement de comment on va apprécier cette course-là. On a toujours eu le parcours, nous autres, on l'envoie le mercredi à chaque participant, là, le mercredi avant la course de la fin de semaine. Alors, vous allez coller ça sur votre bateau. On veut être sûr de ne pas se tromper, de tourner la bouée du bon côté. Et ensuite, les départs vont se donner selon une séquence bien connue à des heures déterminées par le comité de course. Il informe les bateaux, le comité de course, de deux façons. Une façon officielle qui est par la manipulation des drapeaux. Alors, c'est visuel. Votre drapeau de classe est hissé, ensuite il est baissé. Il y a des séquences de départ qui sont annoncées. Et ça, c'est toujours par les drapeaux. Dans les règles de l'art, on pourrait ne pas dire un mot, tout est correct. On va accompagner ces mouvements de drapeau-là par des signaux sonores, le fameux pouet de la petite canne pressurisée. Et on va, nous autres, écoute, on est amateurs, mais il ne faut pas s'en faire à croire, là, dans les courses comme la Vendée Globe, ils font aussi. Alors, c'est pas gênant de se coller sur eux. On va faire le décompte et les avis sur les ondes VHF sur un canal que nous utilisons qui n'est pas le 16 là, d'appel et détresse. Alors, on prend le 72 et là, on va communiquer pour la classe verte. Le départ sera donné à telle heure. Et quand on fait les signaux de départ, d'attente et de préparation de classe, il y a toujours une communication VHF qui est faite, vocale, juste pour être sûr qu'on ne piège pas personne. Puis, bon, mais si on peut faciliter les choses, on le fait.
Oui, parce que malgré tout, pour l'avoir fait seulement à quelques reprises, là, le départ où tous les bateaux sont proches de la ligne, puis là, on pense à son virement de bord qui s'en vient, puis là, on voit un drapeau, puis c'est malgré tous les différents signaux mis en place, ça reste quand même un moment un peu difficile à suivre, surtout pour un néophyte, là.
Absolument, mais pour tout le monde, pour tout le monde. Puis des fois, le vent n'est pas du bon côté, alors le drapeau, il flotte pas du bon bord. C'est plus difficile à voir. Ou encore, tu es plus loin. Tu es assez loin pour te dire que c'est pas facile non plus. Alors, c'est pour ces situations-là là, qu'on a bonifié la façon de faire.
Oui. Puis ça dure combien de temps, une régate environ?
Écoute, ça dépend beaucoup. Il y a certaines régates qui vont durer moins d'une heure. D'autres vont prendre 12 heures. Alors, ça dépend. Les circuits sont différents. Puis quand ils sont très courts, ça se peut qu'on en fasse trois dans la même journée.
OK. Vous, au CRIC, vous avez tout ce spectre de longueur-là. Vous allez faire des régates qui peuvent durer la journée au complet, d'autres qui durent une petite partie d'après-midi.
Oui, et les gens peuvent venir à toutes les régates, à une de celles-ci. Enfin, c'est tellement libre et c'est sûr que plus on va avoir de chances de gagner le championnat annuel, ben plus on fait de courses, mieux ça va.
Ben justement, pour gagner le championnat, est-ce qu'il faut avoir fait comment ça fonctionne, un nombre minimal de courses ou faut toutes les faire? Les points sont comptés comment?
On appelle ça des drops. Alors, on va... Ça dépend du nombre de régates qu'on est capable de tenir dans l'année parce qu'il y en a. Il y a des journées où il n'y a pas de vent, on doit annuler la régate, ça arrive. Mais le contraire existe aussi. Il y a des journées où la météo pourrait être dangereuse et on décide, pour une raison de sécurité, de l'annuler. Ça, c'est la prérogative du comité de course. Alors, ce qu'on va faire, c'est que selon le nombre de courses qu'il y a, on va garder. Tu me prends un petit peu à brûle pour point, là, mais de mémoire, c'est 60 % des courses et on prend tes meilleurs. On va dropper le nombre de courses, mais ça, c'est dans l'avis de course parce que ça change à chaque année. Mais quand on prend connaissance de l'avis de course, on voit combien vont être traités dans la saison, dépendant du nombre de courses qui vont être courues. Et là, le compétiteur peut dire, oh, mais là, si j'en fais une de plus, j'ai gagné toutes les premières, ça ne me donne plus rien sauf le plaisir de participer. Mais tu pourrais te dire, je vais améliorer de beaucoup mes chances en ajoutant un ou deux bons résultats.
Parce qu'on va prendre finalement un certain nombre de vos meilleurs résultats annuels.
Exact.
Si moi, j'ai un bateau, puis là, j'entends ça, je me dis, moi, je vais en faire des régates à Québec, là, dans votre cas, dans la région de Québec. Je fais comment? Je commence où?
On commence par aller se renseigner sur notre site Internet parce que c'est là qu'on a regroupé toutes les informations pertinentes, non seulement pour renseigner la personne intéressée, mais pour aussi faciliter son inscription. Il y a des formulaires pour demander un handicap, puis on est beau joueur, ça ne coûte rien. Alors, les gens intéressés peuvent demander leur handicap. Ensuite, ils vont voir les résultats des autres bateaux, ils vont voir qui participe. Qu'est-ce que ça donne un peu comme temps, comme résultat? Parce qu'il y a plusieurs courses que nous répétons d'une année à l'autre. Les dates ne sont pas les mêmes parce que les marées changent d'une année à l'autre. Mais quand même, le parcours va être... on ne recommence pas à réinventer la roue continuellement. Alors, on peut aller voir ce que ça a l'air, lesquels sont plus près de chez moi, est-ce que ça va m'adonner. Alors, on prend connaissance des renseignements de base. Parce que si on se pose une question, c'est mieux d'avoir la réponse avant que de la chercher après. Et je me demande si ce bateau arrive vers moi comme ceci, qu'est-ce que je devrais faire? La réponse, elle est là. Alors, on peut aller la poser, c'est-à-dire la chercher. Si on ne trouve pas, ben écoute, le CA du CRIC, ça représente quand même 8 personnes et tout le monde est là par passion. Alors, quand on reçoit une question, on se bat quasiment pour être celui qui répond le premier. Alors, c'est pas gênant, là.
Ah, c'est génial, ça. Donc, il faut connaître les. Ce à quoi vous faites allusion, là, par exemple, il y a le bateau qui s'en vient par là, c'est moi qui se tasse, c'est lui qui se tasse, là, c'est qu'il y a des règles de course, il y a des règles de priorité, là, notamment. Ces règles-là sont établies par qui?
Ils sont, écoute, ce que nous appliquons, ce sont les règles de course à la voile de Voile Canada. Alors, on pourrait faire ce qu'on veut, on pourrait inventer nos propres règles si l'on voulait aussi, mais on n'aurait pas cette reconnaissance des organismes reconnus. Alors, le CRIC est associé principalement provincialement à Voile Québec, et Voile Québec est l'organisme provincial associé à Voile Canada. Sur cette base-là, les dernières règles qui sont sorties sont triennales, c'était 2017-2020. Alors, le 2021-2024 n'est pas sorti encore, on l'applique toujours. Et c'est une petite Bible avec beaucoup de renseignements. Ce document-là est aussi sur le site du CRIC, alors il est numérisé. Vous pouvez en prendre connaissance. Ça répond vraiment à toutes les questions et des fois trop. Alors, c'est à la personne de faire le choix et le bon, mais c'est sûr que ça traite autant des courses de dériveurs que de celles des grands quilleurs. Alors, il faut nuancer un petit peu ou appliquer d'une façon précise le renseignement qu'il y a là.
Oui, j'imagine que les règles de course, là, on ne s'attend pas à ce qu'ils changent tout en 2021 par rapport au guide de 2017-2020. Et ça doit être plus ou moins la même chose depuis très longtemps.
Oui, c'est des nuances qui vont changer. Et je prends par exemple là, les bateaux avec les foils, on n'en voyait pas il y a quelques années. Maintenant, il y en a de plus en plus. Alors, ça va influencer certains articles. Peut-être qu'on va avoir dans les handicaps, c'est évident que ça va devoir être pris en charge. Aujourd'hui, je ne saurais pas comment on ferait ça. Je crois que c'est simplement pas encore adapté pour ça. Alors, ça va venir. On s'adapte aux changements. Puis des changements, ben, il n'y en a pas des majeurs à chaque 3 ans.
Voilà, on a encore des bateaux des années 70 qui coursent depuis très longtemps
Et qui gagnent, hein?
et qui gagnent encore.
Oui, qui gagnent encore.
Des bons vieux bateaux. Oui, c'est ça. Donc, les règles à savoir, là, donc on peut dire tribord à mur, priorité sur bâbord à mur, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus connues, un peu plus faciles, un peu plus généralisées, mais après ça, il y en a, là, puis ça se peut que ça n'existe pas, mais je dis ça comme ça. J'ai un spi, et je contourne une bouée, et là, l'autre bateau devant n'a pas de spi, et là, finalement, les règles de priorité peuvent varier légèrement. Est-ce que quelqu'un qui veut participer à une régate pour une première fois, vous lui recommanderiez d'apprendre par cœur les règles de course 2017-2020, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de règles importantes suffisantes pour s'initier?
Il y a les règles importantes, je nuancerai en appelant ça essentielles, comme les règles de sécurité et de priorité. Et ça, c'est pas nécessairement relié à la régate, c'est beaucoup relié aux normes de navigation. Par rapport à la régate, là, ce qu'on va ajouter à ça, c'est à l'approche d'une bouée, par exemple, là, les priorités peuvent changer. Est-ce que le bateau reçoit son vent de bâbord ou de tribord? Parce qu'on peut s'engager sur une bouée. À 3 longueurs de bateau, on devient engagé sur une bouée. Mais est-ce qu'un bateau est engagé avec moi? Il faut que son étrave dépasse ma poupe. À ce moment-là, on peut être obligé de lui donner de l'eau ou pas, dépendant où c'est arrivé. Bon, là, on rentre dans des détails, puis bien honnêtement, quand tu vas faire ta première régate, dans le doute, abstiens-toi. T'sais, si tu vas pas, ou bien tu vas te le faire dire par quelqu'un qui maîtrise bien la situation, fais attention, je suis prioritaire. Mais on fait tout ça, pourquoi? Pour avoir le même plaisir, puis pas blesser personne, puis pas heurter de bateau. Alors, oups, je comprends pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Ça se dit, ben, le ton peut changer, là, mais c'est l'idée, et là, la communication est à la base de la bonne entente. Alors, ensuite, tu vas savoir que toi, tu es nouveau, tu vas avoir un niveau de prudence associé à l'expérience que tu as. Puis, il y en a qui courent un contre l'autre depuis 10 ans. ils se parlent un peu moins, là. Ils devinent les réactions de l'autre ou ils peuvent faire, ils savent que cette situation-là est maîtrisée. Là, ça va simplement être de la manœuvre de bateau puis de la stratégie.
Oui, parce que c'est pas rare finalement qu'on entend le skipper ou la skipper du bateau d'à côté nous dire tasse-toi, ou ce sera peut-être pas ces mots-là, mais on comprend bien.
Tu vas entendre plus des tribords à mur, ça c'est presque à chaque régate, parce que quelqu'un t'a peut-être, t'es pas sûr qu'ils t'ont vu, avec les voiles qui cachent la vue, puis la gîte des bateaux, puis le monde qui se couche en dessous pour voir si la bouée, on va être capable de la faire, ou il faut faire un virement, puis tout à coup, ben voyons, il arrive de où ce voilier-là? Ben il va tourner la même bouée que toi, mais tu l'avais pas vu. Alors, on va s'aviser, on va se dire, j'arrive, je suis prioritaire, tribord à mur, tourne, c'est ça.
Voilà, poliment. Si j'en ai pas de bateau et que j'aimerais faire des régates, ça se fait-tu? Si oui, comment?
Ben, ça se fait évidemment, tu vas être équipier à ce moment-là. Et on avait une question, cette question était récurrente, mais elle était aussi bilatérale. On a des skippers qui disent, hey, j'aimerais bien faire cette régate, il manque des équipiers. Alors, c'est autant des équipiers qui n'ont pas de bateau que des skippers qui manquent des équipiers. On a donc créé la page Facebook qui s'appelle Équipiers du CREEC. Alors, sur la recherche, on tombe dessus. C'est un groupe fermé, alors on doit vous accepter pour venir. Et d'ailleurs, je pense qu'on fait bien parce que j'ai pas vu de message déplacé à cet endroit. On a quand même à peu près 400 membres et plusieurs personnes qui ont offert leur service sur les régatiers du CREEC naviguent maintenant sur des bateaux où les skippers ont bonifié leur équipage avec leur présence. Alors, tout le monde est content. L'équipier fait de la voile, il apprend. Le skipper a un bateau qui peut pousser un peu plus loin parce que il y a de la compétence supplémentaire à utiliser. Alors, ouais, c'est là qu'on va aller. On offre nos services et puis on se joint à une équipe existante.
Super, donc une bonne manière de soit s'initier à la voile, soit en faire plus si on connaît déjà ça. Puis, si je ne m'abuse, là, c'est complètement gratuit pour quelqu'un qui voudrait participer.
C'est complètement gratuit. Ce que je viens d'expliquer là, il n'y a aucun coût associé du tout. Il y a des skippers qui peuvent demander des compensations pour les frais encourus. Puis il y en a qui le font pas, puis il y en a qui le font partiellement. Alors, c'est sûr que d'habitude, chaque équipier s'occupe de lui-même. On n'a pas toujours l'équipement pour tous, là. Si on est imperméable à avoir, puis un VFI, alors on prend pour acquis que la personne est autonome.
Ouais, parfait. C'est un peu comme ça là, à Rimouski où je demeure là. C'est possible d'aller faire des régates en se présentant, par exemple. Nous, ça fonctionne. Je crois que le soir même, on peut se présenter. Puis s'il y a des skippers qui cherchent des gens, il y a comme une liste et là, ils embarquent les gens. Donc c'est une autre manière de fonctionner pour finalement, comme vous dites, avoir plus de bras à bord pour les gens qui ont des bateaux, puis faire de la voile pour ceux qui n'en ont pas. Donc, on a parlé des régates du CREEC, donc dans lesquelles vous êtes impliqués. Ça, c'est dans la région de Québec. Est-ce que, à votre connaissance, il y a soit un circuit centralisé ou d'autres championnats similaires au Québec?
Au Québec, il y en a. Il y en a sur certains lacs, certains clubs de voile. Parlons d'un que nous connaissons assez bien, le Yacht Club de Québec, là, qui est situé sur le boulevard Champlain. Le Yacht Club a son propre circuit de régate à l'interne, avec des courses hebdomadaires. Et ça va très bien, mais ça ne fait pas partie d'un circuit où il va y avoir des comparaisons. Est-ce que on va avoir des comités de course exhaustifs? Alors, tout ça est assez différent. On va aller. Nous avons des participants du CREEC qui vont aller au LO 300, qui est Lake Ontario 300. Alors, c'est une course de 300 milles sur le lac Ontario. Et ça se fait en juillet. Alors, c'est quand le CREEC est en pause parce que plusieurs Québécois prennent leurs vacances en juillet, puis il y a des conflits familiaux là, pour participer aux régates. Alors, on a une pause en juillet, puis on a plusieurs membres là, qui vont convoyer le bateau sur le lac Ontario, faire cette course de 300 000. On s'entend là, c'est quasiment 3 jours, là, jour et nuit. Et voilà, c'est une autre approche de course longue distance. C'est un autre circuit. On n'y est pas associé, mais ça n'empêche pas d'y participer, comme l'an passé avec le lac Champlain qui n'a pas été accessible pour nos Québécois. Ben, il y en a plusieurs qui avaient leur bateau là, mais qui ont trouvé des amis à Montréal, à Trois-Rivières ou ailleurs, qui sont venus à Québec pour faire de la voile et qui ont fait de la régate avec nous.
Oui, parce que finalement, des régates, je veux dire, n'importe qui, comme on le mentionnait plus tôt, peut organiser une régate. Après ça, c'est à voir si on veut qu'elle soit sanctionnée là, par Voile Canada, qui est lui-même chapeauté par World Sailing, donc les organismes là, nationaux, internationaux de voile. Ça change quoi? Parce que vous l'avez fait, vous êtes sanctionné Voile Canada, si j'ai bien compris. Donc, ça change quoi de s'inscrire dans un processus un peu plus formalisé comme ça?
Tu t'assures d'une plus grande intégrité dans la gestion de la course, du respect de règles qu'on va. On s'est engagé à respecter les règles. Alors, on peut se baser, chaque compétiteur peut se dire, ben au moins, il n'y aura pas de favoritisme ou d'interprétation sur des bases qui sont acceptées par tous. Il y a un aspect, ce qui est très important aussi, qu'on aborde peu souvent, c'est qu'il y a des assurances qui viennent avec ces associations-là, autant pour le comité organisateur que pour à peu près tout le monde. Il y a aussi des jurys, parce que, comme dans toute compétition, il peut y avoir des protêts. On les règle à l'interne la plupart du temps. Ils peuvent se régler sur l'eau selon certaines procédures. Et là, je te réfère aux règles de course à la voile qu'on peut consulter. Mais il y a aussi, tu sais, c'est comme dans toutes les cours de justice, si on n'est pas d'accord, on peut aller en appel. Alors, Voile Québec, Voile Canada vont gérer ces appels-là. Alors, au niveau équité, respect des règles, je pense que c'est là qu'on a le plus grand gain. Et il y a aussi la formation des officiels de course. Eux autres donnent des cours que nous suivons. Nos officiels de course sont accrédités, nos juges de course sont accrédités. Alors, ça donne un certificat de compétence collectif.
Oui, parce que c'est pas, comment dire, ça reste pour le plaisir, mais c'est quand même parfois assez compétitif, si je comprends bien. Donc, par exemple, quelqu'un fait une manœuvre qui et il n'était pas prioritaire, puis là, il pénalise quelqu'un d'autre. Là, cette personne-là peut faire un protêt, et là, le comité peut se pencher sur cette décision-là, puis là, faire des compensations nécessaires. Et là, l'avantage d'être sanctionné, ce serait que tout ça se fait selon un ordre bien établi et bien recherché.
Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'on court pour le plaisir, mais c'est plaisant de gagner. Alors, ça fait partie de l'objectif, hein, quand c'est une compétition. Tu fais du mieux que tu peux pour avoir le résultat le meilleur possible.
Ouais, ça doit jouer du coude un peu des fois, là, mais tant que ça reste compétitif, mais pas agressif, c'est ça.
Voilà. Mais ça joue du coude selon les gens impliqués. Quelqu'un qui veut y aller d'une façon plus sécure, plus contrôlée, moins agressive. Alors, tu n'as qu'à te comporter en conséquence.
Oui, c'est ça. Faut pas faire peur aux gens non plus, là. Y a pas de mal à tourner la bouée un peu plus large.
Et absolument, tout est là, parce que du monde qui tombe à l'eau, on en voit, mais ils ont couru après.
Ouais, si c'est de bonne guerre puis qu'on les repêche après, ça fait pas trop mal.
Exact.
Donc là, pour en venir un peu à votre expérience à vous, là, vous, manifestement, vous aimez bien la régate. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous faites de la régate?
Écoute, il y a plusieurs aspects. Un des aspects intéressants, c'est que ça te donne une motivation pour faire de la voile. Alors, non seulement la régate va te faire sortir qu'il y ait de la pluie, un vent plus ou moins intéressant, où, dans le fond, tu vas voir ça comme un défi supplémentaire, puis un défi qui s'applique à tout le monde. Et il y a aussi la préparation à la régate. Tu vas pratiquer avec tes équipiers. Ça te fait aussi faire de la voile. Finalement, le mot-clé, c'est aimer faire de la voile et en faire. C'est un peu l'idée. Et ensuite, tu vas pouvoir, l'autre aspect que je mets à un niveau à peu près égal, te comparer et profiter de l'expertise des autres. Il y a plein de monde qui ont des expériences différentes et ils courent sur un bateau à côté de toi. Puis ensuite, il y a la partie sociale où est-ce que les résultats vont être communiqués. Mais quelle belle occasion de poser des questions et de profiter de l'expérience des autres pour bonifier la sienne.
Ouais, pour en avoir fait à deux trois reprises dans mon cas là, et pour avoir fait plutôt de la croisière avant, et après, donc principalement de la croisière, sur un bateau de régate, l'attention aux détails que je remarquais, puis les subtilités dans l'ajustement des voiles, dans la manière de prendre la barre, j'avais l'impression qu'on se concentre beaucoup plus sur ces petites choses-là, puis qu'après ça, on peut les transposer à nos expériences de voile, en général.
Oui, tu as raison. Comme la barre, c'est un exemple que j'aime. Tu vas barrer. En régate, il y a un barreur. C'est pas le pilote automatique. Oui, tu vas pas mettre un pilote automatique, tu sais, qui fait toujours un petit compromis, là. Non, tu vas être vraiment ciblé. Puis ça se peut que tu barres en te fiant sur tes pneus au lieu de te fier à ta girouette, là, parce que c'est ça qui va t'indiquer ta meilleure position un coup que les voiles sont bien ajustées, là, pour profiter du vent au maximum.
On arrive tranquillement à la fin. Est-ce que c'est le moment où vous nous donnez vos trucs pour gagner la prochaine régate du Creek?
Oui, si vous insistez, je vais vous les donner. Il faut venir en faire. C'est le seul conseil que je peux donner. Il faut en faire. Et on a rarement vu du monde qui ne s'améliore pas. Ce qu'on voit, c'est des gens que plus ils en font, plus ils découvrent les subtilités de leur bateau, ils améliorent leur capacité et tout d'un coup, ils vont faire des choses qu'ils ne connaissaient pas avant, mais qui est plus performant. Et c'est le fun de voir quelqu'un qui arrive dernier, puis graduellement, qui monte les marches. Je me donne un exemple, il n'y a rien de plus simple que ça. La première régate que j'ai faite, on s'est trompé de parcours. J'ai été éliminé parce que j'avais mal interprété les instructions de course. Et on est arrivé dernier ensuite, c'est la vie. Et puis, il y a 2 ans, on a gagné le championnat. C'est ça, graduellement, on s'améliore et puis c'est une source de fierté.
Est-ce que s'il y a une ou deux choses à prendre en considération là, pour drastiquement améliorer ses performances, ce serait quoi?
Pratiquer, bien entretenir son bateau.
Bateau bien entretenu, donc bon, les voiles, gréement, ouais, un peu tout, j'imagine.
Un peu tout. Écoute, ton bateau peut perdre son mât parce qu'une petite goupille de sécurité qui est débarquée avec le temps, puis tu ne l'avais pas remarqué. La goupille part, j'ai turnbuckle dans la tête, là, mais ton ridoire se défait, oui, ton ridoire se défait. Et voilà, tu as un auban qui vient de lâcher, puis le mât va flamber. OK, ça fait partie des petits détails parce que ces petites pines de sécurité-là coûtent 75 sous. Mais quand il n'est plus là, tu viens de tout perdre. Alors, chaque détail compte.
Ouais, t'as surtout pas gagné la course dans ce cas-là.
Tout à fait, une journée qui coûte cher.
Ouais, c'est ça. Si je veux lire pour apprendre plus sur la régate, est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller?
Sur la régate, moi, je pense que suivre les liens utiles que nous avons sur le site, c'est un excellent départ. Chaque lien utile, bien souvent, en contient d'autres. Et à partir de là, on peut préciser avec nos goûts, nos aspirations, quel sujet nous intéresse le plus. Et il peut être autant physique que le bateau, que sur les connaissances personnelles, sur la façon d'améliorer le matelotage pour abaisser le poids qu'on a sur les écoutes. Alors, il y a tellement de domaines, mais on peut se spécialiser aussi, que le skipper va étudier les stratégies alors que des équipiers peuvent, eux, étudier d'autres choses. Et finalement, parce qu'une régate en équipage, c'est toujours un travail d'équipe, c'est l'équipe qui va s'en trouver bonifiée.
Donc ça c'est au cric.org, CRYQ.org.
Exactement.
Super. Yvan, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
C'est un grand plaisir. Puis si le monde veut communiquer avec nous, les coordonnées sont sur le site, celles de chaque membre du CA également. Vous pouvez nous écrire individuellement ou à info@cric.org. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.
Merveilleux.
Un gros merci.
Maybe my line's so loose. Maybe a catch to win.
Voilier sur les ondes est une réalisation de Jade Paradis au cœur et de moi-même. La musique est tirée de l'album Lines and Loops de Maud Blanchet, disponible sur Bandcamp. Encore une fois, nous tenons à remercier Yvan Simard d'avoir pris le temps de nous expliquer les rouages des régates du Creek. Finalement, si vous avez aimé, nous serions ravis que vous partagiez ce balado avec vos amis voileux et voileuses. Vous pouvez nous trouver sur la page Facebook de Voilier, au pluriel, sur les ondes, sur votre application de podcast ou encore en ligne sur le site Anchor, comme une encre en anglais, au anchor.fm/voilier sur les ondes. Merci et à la prochaine.
If my lines were tangled and I dropped the wrong net, will I dare to jump or avoid getting wet? 'Cause I can tell the north on a cloudy sky, sail up and tow. That I'm hard to catch, and is there a chance you can tie me still? 'Cause I might just drift away with next tide. 'Cause once my lines they are untied, will I get a chance? Let it spin.